Vous écoutez, on lit pour vous.
Santé des femmes, la recherche toujours à l'essai. Une enquête d'Audrey Van Brabant et Julia Van der Bort, parue le 3 février 2025 dans Axel. Si les pathologies qui ne touchent que les femmes sont mieux connues de la médecine, leur prise en charge reste encore incomplète, voire inexistante. Même constat du côté des maladies qui les concernent différemment des hommes comme l'AVC, le VIH-Sida, etc. Quand il s'agit de comprendre l'ampleur des maux dont souffrent les femmes, la science bégaye. Surtout lorsqu'il s'agit de leur proposer un traitement digne de ce nom. En cause, une recherche scientifique qui ne s'active que très peu. Et lorsqu'elle le fait, ses motivations semblent souvent intéressées. Anissa a 13 ans quand elle se retrouve pour la première fois face à un gynécologue. Depuis peu, ses règles se sont déclenchées et avec elles, les inquiétudes de la jeune fille. « J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas. Mes cycles menstruels duraient 21 jours et j'ai rapidement commencé à perdre de très gros caillots de sang. Comme beaucoup d'autres jeunes filles, elle s'entend proposer la pilule contraceptive et une dose de patience pour réguler des menstruations impressionnantes. Les années passent sans que la fameuse stabilisation de ses règles n'arrive. Anissa se tord de douleur, rate les cours d'abord, enchaîne les absences au boulot à cause des douleurs ensuite, et aucune solution pérenne ne lui est proposée, à l'exception de la pilule en continu, qu'elle refuse catégoriquement. « Ma maman a eu un cancer du sein hormonodépendant qui s'est déclenché une fois qu'elle a arrêté de prendre la pilule. Forcément, ça crée des craintes, d'autant qu'il y a beaucoup de cancers dans ma famille. Mais ça, pour les médecins, c'est inaudible tant la pilule semble être la solution. » Errance, hasard et intuition. Arrive février 2022. Anissa contracte le COVID-19 pour la deuxième fois. Dans son corps, tout se détraque, notamment au niveau de ses menstruations déjà très difficiles à vivre. J'ai commencé à perdre énormément de sang. Je remplissais une serviette toutes les 15 minutes. J'ai demandé un rendez-vous en urgence à ma gynécologue qui m'a envoyé faire une échographie plus poussée. Enfin, un début de diagnostic tombe après 20 ans de règles hémorragiques. Anissa a de l'adénomyose, une forme d'endométriose, diffuse et profonde tout le long de son utérus. Le soignant en charge de l'échographie n'émet aucun doute tant il y en a partout. Lorsqu'Anissa revient chez sa gynécologue 10 mois plus tard, c'est le fruit du hasard qui va étayer le verdict. En feuilletant mes analyses, elle me dit « Ah, mais attendez, il y a une maladie génétique dans votre famille. » Je n'étais absolument pas au courant et pour cause. Elle confondait mon dossier et celui de ma cousine, qui est également sa patiente. Sans cette erreur, on n'aurait peut-être jamais fait le lien avec le syndrome d'Ehlers-Danlos. 70% des patients diagnostiqués sont des femmes, que ma cousine a et dont, après plusieurs tests, j'apprends que je souffre aussi. C'est une maladie du collagène qui a subi une mutation différente. Ça peut impacter la peau, les vaisseaux sanguins, les organes. Chez moi, ça se matérialise, entre autres, par un syndrome hémorragique. Anissa peut enfin commencer un mélange de médicaments globalement efficaces, après 2 décennies d'essais-erreurs et beaucoup d'incertitudes. Errance, hasard et surtout farouche intuition. Anissa connaît son corps et est certaine que le COVID-19 a déclenché quelque chose. Les médecins m'ont d'abord répondu que c'était juste le hasard, puis que c'était possible, mais qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Une étude française de l'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM, fait effectivement la corrélation entre la vaccination et des modifications indésirables et temporaires du cycle menstruel. Mais la recherche ne semble pas s'être penchée davantage sur de potentielles conséquences du coronavirus sur les menstruations. Elle ne semble pas non plus s'être saisie totalement de l'endométriose et de ses nombreuses formes et ne propose, pas encore, d'autres façons de la maîtriser que la pilule contraceptive prise en continu, malgré ses effets secondaires multiples, voire inquiétants. La recherche scientifique paraît accorder un intérêt limité aux maladies qui ne touchent que les femmes. De la cystite à la vulvodynie, douleur vaginale, en passant par les maux divers qui accompagnent la ménopause, la recherche ne s'active pas, peu ou mal. Pourtant, depuis plusieurs années, et grâce en grande partie au travail des collectifs militants, la recherche commence à se saisir de ces pathologies et de leurs spécificités. Au printemps 2024, Science Anneau, Institut national de santé publique en Belgique, présentait un rapport complet sur la santé des femmes. Intitulé « Comment se porte la population féminine en Belgique », il attire l'attention sur les inégalités toujours importantes en termes de prise en charge et de connaissance des pathologies. À ceci s'ajoutent les inquiétudes quant à la santé mentale précaire des femmes. La dépression ou l'anorexie les touche majoritairement. Le rapport de Science Anneau souligne que même si elles vivent plus longtemps, c'est souvent en mauvaise santé, puisqu'elles sont davantage exposées à de multiples problèmes de santé comme la démence, les maladies musculaires et squelettiques ou l'incontinence. À titre d'exemple, la prévalence de l'ostéoporose et des fractures qu'elle provoque est presque 10 fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Cela s'explique notamment par les effets de la ménopause, elle-même peu étudiée. Compliqué de comprendre pourquoi un rapport aussi décisif arrive si tard. D'autant plus que son existence repose, comme la plupart du temps, sur la volonté d'une poignée de chercheuses soucieuses de creuser ce qui l'a trop peu été. Alors, faudrait-il, comme pour l'endométriose, que chaque maladie soit portée par la sphère militante, attire l'attention des médias pour qu'enfin la recherche scientifique s'y intéresse? Mais si l'endométriose est aujourd'hui mieux comprise et étudiée, est-ce dans le but de soigner les patientes ou parce que la maladie cache d'autres enjeux, notamment liés à la fertilité, comme nous le verrons dans cette enquête? Une histoire marquée par le rejet des femmes. Pendant longtemps, les femmes ont été exclues des essais cliniques pour différents motifs. Principalement parce que, pour le milieu médical comme pour la société, elles étaient cantonnées au rôle de mère et d'épouse. Ce postulat a conduit à écarter des recherches les femmes en âge de procréer, aussi pour les protéger des risques en cas de grossesse. Le cas du VIH-SIDA illustre bien comment les femmes ont été négligées dans la recherche médicale. Dans les années 1980, les premiers essais cliniques n'intègrent quasi que des hommes, ce qui a pour conséquence de gommer les spécificités de la maladie ou des effets secondaires des traitements sur le corps des femmes. Dans leur ouvrage « Mauvais traitement, pourquoi les femmes sont mal soignées », Seuil 2020, les journalistes Delphine Bauer et Ariane Puccini racontent leur rencontre avec l'activiste Catherine Capusta-Palmer. Séropositive, elle explique que dans les années 80, au-delà des douleurs physiques et psychologiques, elle souffre d'effets secondaires très spécifiques à la suite des traitements antirétroviraux. À la prise de ces médicaments, son corps gonfle anormalement. Quand elle en parle à son médecin, il réduit ses inquiétudes à des considérations superficielles. Idem plus tard, quand elle ressent les premiers symptômes de problèmes cardiovasculaires, un autre effet secondaire du traitement. Catherine Capusta-Palmer subit plusieurs infarctus où elle frôle la mort. Elle se souvient que face aux problèmes cardiovasculaires, les femmes étaient plus en danger, car on ne s'en préoccupait pas. Longtemps considérée comme une maladie masculine, l'AVC touche pourtant en moyenne plus de femmes que d'hommes. Selon la Ligue cardiologique belge, 31% des décès actuels des femmes sont dus aux maladies cardiovasculaires, ce qui en fait la première cause de mortalité devant les différentes formes de cancer, dont celui du sein, le plus fréquent. Comme pour le VIH-SIDA, les femmes sont sous-représentées dans les essais cliniques portant sur les maladies cardiaques, en plus d'avoir, toujours selon la Ligue, 27 % en moins de chances de bénéficier d'un massage cardiaque qu'un homme. Pourtant, il est reconnu que la pathologie s'exprime différemment selon le sexe. Depuis les années 80, les choses évoluent, doucement. En 1993, l'Autorité américaine du médicament a revu sa politique pour améliorer la participation des femmes aux essais cliniques. Dans l'Union européenne, depuis une directive de 2001, la participation des femmes est devenue une obligation. Pourtant, ces dernières ne représentent, selon plusieurs études, que 30 à 40 % des participants participant aux essais cliniques. Et il arrive qu'elles soient oubliées, même pour des médicaments qui leur sont uniquement destinés. Ce fut le cas de l'ADI, commercialisé aux États-Unis depuis 2015 pour traiter la baisse de libido chez les femmes, mais pour lequel certains essais comportaient 2 femmes pour 23 hommes. Vous écoutez Santé des femmes, la recherche toujours à l'essai. Une enquête d'Audrey Van Brabant et Julia Van der Bort, parue le 3 février 2025 dans Axel. En médecine aussi, le masculin fait le neutre. La recherche scientifique moderne a toujours considéré le corps de l'homme blanc, cisgenre, valide, etc., comme le standard de neutralité. Ce qui a forcément des conséquences lourdes sur la compréhension qu'ont aujourd'hui les professionnels de la santé des corps des femmes. Margot Neve, chercheuse en sociologie sur l'endométriose, explique cette vision qui a également conduit à une pathologisation du corps féminin et à une double problématique. D'un côté, on dit qu'on ne prend pas en charge certaines pathologies, ou en tout cas certaines douleurs, et de l'autre, on déploie une médicalisation très particulière envers le corps des femmes. Un paradoxe qui participe, selon elle, à l'invisibilisation des douleurs, puisque d'un côté, ce qui est aujourd'hui décrit comme une spécificité féminine, comme les règles ou la ménopause, va être davantage médicalisé, mais en même temps renvoyé à la nature des femmes, et donc rendu normal. En clair, on va reconnaître que les règles, c'est douloureux, mais comme c'est normal, on ne prend pas en charge cette douleur. En plus de cette invisibilisation, la perception du corps masculin comme référence conduit également à un manque de données, à une prise en charge insuffisante des patientes, ainsi qu'à la prescription de médicaments qui restent globalement mieux adaptés aux hommes. Par exemple, les journalistes Delphine Bauer et Ariane Puccini expliquent qu'une demi-dose de vaccin contre la grippe provoque une réponse immunitaire similaire chez les femmes qu'une dose complète chez les hommes. Administrer le même traitement à la population sans tenir compte de son genre et de son sexe n'est pas seulement inutile, c'est également dangereux, puisqu'avec une dose complète, les femmes sont 2 fois plus nombreuses à signaler des effets secondaires. Les autrices tirent alors la sonnette d'alarme face à ce qu'elles appellent un problème de sécurité sanitaire. Plus clairement, ne pas intégrer suffisamment les femmes dans la recherche revient à leur offrir des soins inadaptés, voire à mettre leur vie en danger. Un constat qui fait directement écho à ce que nous confie Laura, qui souffre d'endométriose. Cette liégeoise de 33 ans a elle aussi connu une longue errance médicale, accompagnée de son lot de violences, ce qui l'a notamment contrainte à de nombreuses adaptations lors de ses études. À 25 ans, après un CESS passé devant le jury central, Laura bataille avec l'ULIÈGE pour faire reconnaître l'endométriose comme pathologie et obtenir un statut d'étudiante en situation de maladie. Elle est la première. Laura raconte avoir ensuite subi plusieurs opérations pour traiter ses symptômes. Au réveil, j'ai un énorme fil relié à une poche de sang. J'appelle les infirmières qui me certifient que tout est normal, et c'est seulement plusieurs heures plus tard que ma gynécologue m'explique que j'avais une tumeur sur le foie. une masse qui aurait pu exploser et serait due, selon sa gynécologue, à la pilule qu'elle prenait depuis plusieurs années déjà. Son traitement, administré par un médecin, la détruisait à petit feu. La recherche est cruelle. À bien des égards, la recherche scientifique est sévère. D'abord, car elle s'intéresse peu aux maladies rares, qui touchent pourtant, d'après l'Institut Sciences Anneaux, entre 660 000 et 880 000 Belges, dont plus de la moitié sont des enfants. Ces pathologies souvent graves sont, d'une part, sous-diagnostiquées et, d'autre part, sous-financées car elles ne représentent que peu d'intérêt pour les laboratoires pharmaceutiques. Pour Marie-Madeleine Dolmans, gynécologue au Centre pour l'endométriose des cliniques universitaires Saint-Luc, l'endométriose n'étant, cela dit, pas reconnue comme une maladie rare, ces recherches spécifiques sont généralement financées directement par les familles touchées par l'une ou l'autre pathologie. Mais encore faut-il que ces familles aient les moyens d'investir dans de tels fonds, finit-elle, non sans une pointe de sarcasme. La question du financement nous a amenés à pousser l'imposante porte de la Fondation Roy-Baudouin, magnifique bâtiment de marbre et de fer forgé au cœur de Bruxelles. Lustre, tapis rouge, portrait de nos monarques dans l'entrée, la fondation ressemble à l'image que l'on se fait d'une institution aux nombreuses mécènes. Ludwig Forest et Annemie Tseyen sont respectivement responsables de la philanthropie et chargés du projet santé de la fondation. Les deux connaissent bien la recherche scientifique, qui fait partie des missions de l'institution. Celle-ci a notamment alloué plus de 6 millions d'euros à la recherche en santé en 2022 via des moyens philanthropiques privés mis à disposition de l'intérêt général, nous précise-t-on. Des personnes privées ou des entreprises contactent la Fondation pour soutenir la recherche ou pour créer de nouveaux fonds destinés à financer les études sur l'une ou l'autre cause, motivées généralement par leur histoire personnelle. Lors de notre échange, Ludwig Forest confirme que, même si la Fondation investit déjà dans des études liées à l'endométriose, il n'y a cependant pas encore de fonds spécifiques alloués aux maladies féminines. Il admet par ailleurs que, suivant le fonctionnement de la Fondation, il faut attendre que quelqu'un nous approche et affiche son intérêt pour l'une ou l'autre pathologie. Cependant, il affirme que c'est pour bientôt. La Fondation vit avec son époque et le fait d'en parler plus qu'avant, ça peut inspirer d'autres personnes, leur donner l'idée d'investir dans ces recherches. Il faudra d'abord travailler à la création d'un premier fonds et plus tard, il y en aura deux ou trois liés aux maladies féminines, c'est certain. C'est comme pour l'écologie. Il y a quelques années, on ne parlait pas de la biodiversité. Maintenant, on a plusieurs fonds qui travaillent là-dessus. Ce n'est évidemment pas souhaitable, mais faudrait-il attendre qu'une famille riche voie son quotidien bouleversé par l'une de ces maladies pour que des recherches puissent être financées? En parlant d'intérêt général, Marie-Madeleine Dolmans rappelle également que les personnes qui régissent la recherche préfèrent l'homogénéité et vont donc investir dans ce qui servira au plus grand nombre. Il y a beaucoup plus d'activation pour des maladies qui touchent tout le monde, alors que tout ce qui est exclusivement féminin ne concerne que la moitié de la population. C'est moins attractif. À titre d'exemple, sur le site de la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis, on recense 900 études sur les douleurs vaginales, contre plus de 26 000 sur les troubles érectiles. Ce qui n'est pas sans conséquence et qui amène à créer de véritables tabous autour de maladies pourtant répandues. C'est vrai que dans le cas des cystites récidivantes, c'est déjà difficile d'en parler, mais c'est aussi compliqué d'en expliquer les causes. Il faudrait former la nouvelle génération de médecins, mais c'est dur car les professeurs actuels manquent d'infos à leur donner. Enfin, la façon dont est pensée la recherche peut parfois sembler sadique. C'est ce qu'avance Sophia Leduc, docteur en sciences biomédicales. Avec la cystite ou l'endométriose, il y a un peu l'idée « la patiente ne va pas en mourir ». ce sont des maladies qu'on considère peut-être comme moins graves en science, parce qu'on peut vivre avec. Et donc cette question, pourquoi dépenser autant d'argent dans la recherche de solutions? En fait, pour que ça change, il faudrait limite que la cystite fasse partie d'un gros groupe de maladies et que ça touche aussi les hommes. Un peu comme le cancer du sein qui est tombé dans l'intérêt global du cancer, maladie pour laquelle on investit, à juste titre, énormément d'argent. L'épineuse question du financement. Qui va payer pour ça? Ritournelle entendue lors de nos entretiens. Souvent prononcée avec désolation ou sarcasme, l'évidence est là. Ces maladies ne rapportent pas assez pour être suffisamment soutenues. Simplement parce que la recherche scientifique est puissamment influencée par les firmes pharmaceutiques dont l'intérêt est de produire des médicaments en masse et de les vendre. Si les choses vont dans le bon sens ces dernières années, force est de constater qu'au regard des maigres chiffres disponibles, l'évolution est peu tangible. En 2020 aux États-Unis, le National Institute of Health, la principale agence gouvernementale chargée de la recherche biomédicale et de la santé publique, consacrait seulement 10 % de son budget à l'étude de celle des femmes. Chez nous, difficile d'avancer un chiffre, car malgré les dizaines de mails envoyés aux institutions scientifiques et politiques belges, il a été quasi impossible d'obtenir des données quant au budget alloué à la recherche sur les maladies qui touchent les femmes et les personnes sexisées. Au bout du compte, une seule réponse chiffrée reçue de la région bruxelloise qui liste 3 projets financés dans ce domaine depuis 2020, notamment sur la congélation des ovocytes en cas de traitement contre le cancer, pour un montant d'un peu plus d'1 million d'euros. Alors, pourquoi un tel frein? Comme nous le rappelle l'ASBL Femmes et Santé, quantifier le financement d'un sujet de recherche est extrêmement complexe, notamment à cause des nombreux modes de financement. Il existe plusieurs types d'organismes, que ce soit au niveau fédéral, régional, communautaire, européen ou encore géré par le privé. Il faut également considérer la recherche exercée par les pouvoirs publics, les associations, etc. Vous écoutez Santé des femmes, la recherche toujours à l'essai. Une enquête d'Audrey Van Brabant et Julia Van der Bort, parue le 3 février 2025 dans Axel. Qui cherche mieux, trouve mieux. Lorsque l'on questionne l'intérêt de la recherche scientifique, c'est tout son fonctionnement qu'il faut décortiquer. Comment et pourquoi on cherche et on trouve? Comment interroger de manière critique tout ce que l'on sait déjà? Et ouvrir la recherche aux thèmes pour lesquels elle n'a pas encore de données. Rappelons que la recherche scientifique se base sur le « evidence-based medicine », à savoir des faits probants eux-mêmes basés sur des données explicites qui proviennent d'études cliniques, d'essais, vérifiés, revérifiés, etc. C'est ce premier constat qui préoccupe Charline Marbet, médecine généraliste et chercheuse et collaboratrice régulière d'Axel. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour questionner comment on produit des preuves et l'institution scientifique n'accepte pas vraiment que l'on pose un regard critique sociologique sur la production des connaissances. C'est paradoxal parce qu'on va vers une médecine individualisée tout en prônant un système de preuves qui standardise et homogénéise les individus sur base d'une norme qui est, historiquement, celle d'un corps d'homme blanc. D'autant que cette manière de récolter des preuves est très efficace pour répondre à un contexte capitaliste de production de médicaments en masse, étaye-t-elle. À ce constat s'ajoute ce qui, vu de l'extérieur, a des allures de bataille. La méthode quantitative versus la méthode qualitative. La première rime avec statistique, outil d'analyse mathématique, questionnaire fermé, à choix préétabli, dispensé à un échantillon de recherche contrôlé, tandis que la seconde entre en contact direct avec son objet d'étude, dialogue de façon ouverte et place la discussion au centre. Si on schématise, les méthodes quantitatives priment souvent dans la recherche biomédicale et en santé publique, là où le qualitatif se conjugue davantage avec les sciences sociales, dont la sociologie et les études de genre. Mais attention, pour Carol Walker, chercheuse et assistante en enseignement à la Faculté de santé publique de l'UCLouvain, il faut éviter les écueils. J'insiste sur le fait que « quantitatif » ne veut pas dire « objectif ». Quand les études quanti établissent un questionnaire, il y a aussi des choix qui sont faits et ils sont orientés et donc en partie subjectifs, qu'on le veuille ou non. Ce regard critique, elle le porte notamment grâce à la recherche qu'elle a menée pendant des années et arrêtée en 2024 vu les freins rencontrés sur l'usage de drogue chez les minorités sexuelles et de genre. Pour moi, c'était évident que j'allais inclure ces personnes dans mon processus de recherche. Quand je faisais des entretiens exploratoires, préliminaires, elles me rapportaient souvent qu'on parlait d'elles sans elles, voire qu'on déformait leurs propos. Dans les précédentes recherches sur la consommation de drogue, j'ai constaté que c'était majoritairement des hommes qui constituaient les échantillons. Ça contribue à véhiculer certaines représentations, par exemple, que les femmes ne sont pas concernées par les drogues et ça invisibilise des vécus et problématiques. Il faut pouvoir comprendre tous les biais qu'il y a dans la littérature scientifique. Sauf que la façon dont Carol Walker a choisi de mener sa recherche, en incluant les personnes concernées, ne séduit pas le reste du milieu. Trop impliqué, pas assez de distance, manque d'objectivité. D'après nos différents entretiens, il y aurait comme une croyance selon laquelle la méthode quantitative et les sciences dures bénéficient d'une certaine noblesse inébranlable qui annihilerait toute forme de biais et assurerait une infaillibilité des résultats. À cela s'ajoute le fait que les méthodes qualitatives prennent généralement plus de temps, constat qui se marie mal avec les réalités économiques et capitalistes. Aussi, proposer un autre éclairage sur la recherche et tous les savoirs déjà produits reviendrait à tout revoir, et comme le souligne Charline Marbet, à accepter que le savoir de la patientèle existe dans ce système. À l'instar de Laura, qui, sans aucun diplôme de médecine, mais armée de détermination, a fait avancer son diagnostic grâce à ses propres analyses de résultats et ses nombreuses recherches. Sophie Tunus, sociologue et doyenne de la Faculté de santé publique de l'UCLouvain, résume. La culture universitaire est celle de la rationalité et de l'extrême objectivité. Celle-ci a été majoritairement forgée par des hommes qui, inévitablement, donnent un ton aux discussions et arbitrent le partage entre ce qui est une information et un point de vue recevable ou pas. Pour avancer et se diversifier, peut-être que la recherche aurait tout intérêt à descendre de son perchoir et revoir son jugement sur l'importance de la combinaison des deux méthodes. Peut-être aussi qu'elle aurait tout à gagner à accepter qu'on questionne les données déjà recueillies. Si jamais tu t'éloignes trop des connaissances antérieures, tu as peu de chances d'être publié, synthétise Charline Marbet. Il y a comme une espèce de conservatisme structurel dans la recherche. Tu peux t'éloigner et être innovant, innovante, mais pas trop, parce que sinon on estime que tu fais des conneries. Revoir sa copie. Dans ce contexte, toutefois, les mentalités évoluent. Le monde de la recherche se féminise, amenant en son sein une plus grande diversité de profils et donc de sujets de recherche. Reste que les initiatives sont souvent le fruit d'une volonté personnelle d'une poignée de chercheurs, chercheuses, soucieux, soucieuses d'avancer sur des sujets laissés sur une voie de garage. C'est par exemple le cas d'Aline Scoyi, à l'origine du rapport sur l'état de la santé des femmes publié en avril 2024 par Science Anneau. La scientifique le concède. Cette analyse est la volonté de deux personnes et du fait que notre direction nous soutienne. Même constat pour sa collègue Sherianne Benseman, chargée de la surveillance de l'état de santé de la population via les données collectées par les médecins généralistes. Consciente que la classe sociale joue un rôle primordial sur l'accès aux soins, elle a réfléchi avec son équipe à une manière de récolter ces informations. On a fait notre petit putsch. Ça a fonctionné et maintenant on demande au médecin d'indiquer le type de carte d'identité et de mentionner un statut BIM, bénéficiaire d'intervention majorée, ou équivalent. Ce n'est pas la meilleure solution, mais c'est mieux que rien et couplé aux autres infos, ça va pouvoir donner de nouvelles analyses. Mais à ce stade, les initiatives restent marginales, bénévoles ou bricolées. Alexandrine Close est kiné spécialisée en rééducation du périnée. Pendant 3 ans, elle a mené des recherches et mis en place un traitement pour ses nombreuses patientes atteintes de vulvodynie. Résultat qu'elle a fait relire et publier à ses frais. Bien que citée aujourd'hui à l'international, Alexandrine Close ne figurera jamais dans les recommandations puisqu'elle n'a pas suivi le processus obligatoire d'une étude randomisée, c'est-à-dire contrôlée, avec 2 groupes étudiés distinctement. Mais j'ai une éthique, qui est celle de ne pas faire venir des patientes et de leur faire tester un placebo alors qu'elles ont mal et besoin d'un traitement. Une solution également avancée par la généraliste Charline Marbet est d'aller vers une science davantage citoyenne et transparente, rappelant que les mouvements sociaux mettent à jour des problèmes politiques. Une science citoyenne signifie aussi garantir une transparence sur tous les financements de la recherche. Comment expliquer, par exemple, que l'industrie pharmaceutique détient 2 sièges, même uniquement consultatifs, dans la commission de remboursement des médicaments? Le niveau politique a son rôle à jouer en donnant des directives claires. En Suisse comme en Belgique, le contenu et les objectifs des études de médecine sont décidés au niveau fédéral. Joël Schwartz, co-responsable de l'unité santé et genre à l'Université de Lausanne, explique que depuis 2018-2019, les exigences pour l'enseignement en médecine ont été revues et que le genre est désormais étudié dès les premières années de bachelier. Ce sont des cours obligatoires, ce qui signifie, par exemple, qu'il est désormais attendu des étudiants et étudiantes qu'ils et elles sachent qu'il existe des biais de genre et que ces biais doivent être envisagés dans la prise en charge de la patientèle. Mais bon, c'est un exemple qui est très largement dû à des personnes qui sont au bon endroit, au bon moment, et qui arrivent avec leurs gros sabots pour se faire entendre. Chez nous, même si les doyens des écoles de médecine contactées nous affirment que les notions de genre sont bien abordées durant les cours, il n'y a cependant rien d'obligatoire. Selon Charline Marbet, c'est d'ailleurs ce qui doit nous amener à nuancer la place « top niveau » revendiquée par la Belgique sur la scène internationale. La promotion de la santé, ce n'est même pas 10% du cursus en médecine. Certains étudiants, certaines étudiantes, passent toutes leurs études sans aborder cette notion. Ça signifie que les gens vont devoir se former après et qu'il n'y a que les intéressés qui le feront. Un pas en avant, un autre en arrière. Anissa et Laura font attention à ne pas crier victoire trop vite. Pendant des années, Laura a bataillé, d'abord sur les réseaux sociaux, puis au niveau politique, en déposant notamment une motion à la ville de Liège pour une meilleure prise en charge de l'endométriose. Et même si elle dit avoir été écoutée, elle constate le manque d'action. Les gens ont l'impression qu'on parle beaucoup de ces maladies et que donc on les connaît bien. Mais quand on creuse, je constate qu'on reste vraiment dans les stéréotypes et ça n'aide pas les personnes qui en souffrent. On en parle, mais mal. Face à l'avancée des recherches dans le domaine, là aussi, il faut rester mesuré. On se souvient, par exemple, de l'engouement suscité par la découverte de l'entreprise française Ziwig en janvier dernier, un simple test salivaire capable de détecter l'endométriose. Mais si ce test est une petite révolution en termes de diagnostic, il ne s'agit ni d'un traitement ni d'une solution pour soulager les douleurs. Qui plus est, faut-il encore qu'il soit remboursé pour être vraiment accessible, ce qui n'est pas encore à l'ordre du jour. Lors de cette enquête, il a souvent été question de cynisme. Mais le point culminant arrive sûrement lorsque l'on croise recherche et infertilité. L'endométriose, par exemple, a un impact sur la fertilité. Anissa en sait quelque chose. Quand j'ai compris qu'il fallait préciser que je veux des enfants, un tas de portes se sont ouvertes, et c'est même à partir de là qu'on m'a fait passer des tests qui ont permis mes diagnostics. Ma prise en charge est complètement différente depuis que je le mentionne, et je pense que c'est ça qui intéresse réellement la science. Être sûr que je peux procréer si je le veux. Or, je ne sais même pas si je veux des enfants. Margot Neve, chercheuse en sociologie sur l'endométriose, complète. Dans la prise en charge et le diagnostic de l'endométriose, le travail reproductif est central. Généralement, on se fait diagnostiquer à une période où l'on est censé avoir des enfants et les chirurgies sont posées ou non en fonction de ça. Les traitements qui existent sont principalement hormonaux et utilisés pour gérer la fertilité, ce qui écarte celles qui ne veulent ou ne peuvent pas en avoir. Anissa conclut : niveau fatigue et douleur, c'est marche ou crève. J'aimerais qu'on nous considère au-delà de notre fertilité, ne pas être réduite à mon utérus. C'était Santé des femmes, la recherche toujours à l'essai. Une enquête d'Audrey Van Brabant et Julia Van der Bort, parue le 3 février 2025 dans Axel.
Au sommet sur l'IA à Paris, les États-Unis se posent en pourfendeur de la régulation, un texte d'Aurélie Mayembo et Mona Guichard, Valérie Leroux, de l'agence France Presse, paru le 11 février 2025 dans Le Devoir. Le sommet de Paris sur l'intelligence artificielle, IA, a vu s'affronter deux visions du monde. Les États-Unis appelant à limiter la régulation pour ne pas tuer une industrie en plein essor, qu'ils dominent et ne signant pas l'appel sur une IA ouverte, inclusive et éthique. À la clôture du sommet, mardi 11 février 2025, 58 pays, dont la Chine, la France et l'Inde, les co-organisateurs, ainsi que l'Union européenne et la Commission de l'Union africaine, se sont prononcés pour une coordination renforcée de la gouvernance de l'IA et ont appelé à éviter une concentration du marché afin que cette technologie soit plus accessible. Une vision très éloignée de celle défendue par les États-Unis qui, comme le Royaume-Uni, ne figure pas parmi les signataires de cette déclaration, rassemblant des principes partagés de régulation, un thème maintes fois abordé lors de ce sommet. Le gouvernement britannique a fait savoir qu'il ne souhaitait adhérer qu'à des initiatives qui sont dans l'intérêt national du Royaume-Uni. Pendant deux jours, dirigeants politiques et patrons de la tech se sont réunis dans l'enceinte du Grand Palais. La journée de mardi a été marquée par le discours offensif du vice-président américain J.D. Vance, dont c'est le premier déplacement à l'international depuis la prise de fonction de Donald Trump fin janvier 2025 et l'annonce de Stargate, un plan d'investissement dans l'IA américaine à hauteur de 500 milliards de dollars. Tactique. À rebours d'une Europe voulant aller plus vite tout en définissant un cadre à l'essor de l'IA, il a souhaité faire tous les efforts possibles pour encourager les politiques pro-croissance en la matière. Les États-Unis sont les leaders dans l'IA et notre administration en tant qu'il le reste, a-t-il souligné, quelques heures après la publication d'informations sur une offre non sollicitée d'Elon Musk sur la start-up OpenAI à l'origine de ChatGPT. Selon le Wall Street Journal, le milliardaire proche de Trump, qui dispose déjà de sa propre entreprise d'IA générative xAI, lancée en 2023, veut, avec un groupe d'investisseurs, racheter l'organisation à but non lucratif qui contrôle OpenAI pour 97,4 milliards de dollars. Il essaie, probablement de nous ralentir. C'est évidemment un concurrent, a déclaré à Bloomberg TV Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui avait adressé une fin de non-recevoir au soir du lundi 10 février 2025 à Elon Musk. J'aimerais qu'il se contente de créer un meilleur produit, a-t-il ajouté, critiquant les tactiques de celui qui fut par ailleurs cofondateur d'OpenAI. L'entreprise n'est pas à vendre, a martelé Chris Lehane, le vice-président en charge des affaires publiques d'OpenAI, présent à un événement business à Station F, l'incubateur de start-up fondé par le milliardaire français Xavier Niel, où s'est également rendu le président Macron dans l'après-midi. Avant de déjeuner à l'Élysée, J.D. Vance avait également mis en garde contre les partenariats avec les régimes autoritaires dans une référence à peine voilée à la Chine. « S'associer avec eux, ces régimes, note de la rédaction, revient à enchaîner votre nation à un maître autoritaire qui cherche à infiltrer, s'installer et s'emparer de votre infrastructure d'information. » Coup de projecteur. En réponse aux ambitions américaines, Emmanuel Macron a insisté sur le « besoin de règles et d'un cadre de confiance pour accompagner le développement de l'IA » en clôture du sommet qui s'est traduit pour la France par un plan d'investissement privé à hauteur de 109 milliards d'euros. Le sommet a aussi été un excellent moyen de mettre un coup de projecteur sur l'écosystème, sur la France, sur l'Europe, de montrer qu'en fait, il n'y a pas que ChatGPT et le chinois DeepSeek, a commenté pour l'AFP Maya Noël, directrice générale de France Digital, qui se présente comme la première organisation de start-up en Europe. Pour le premier ministre indien Narendra Modi, qui accueillera le prochain sommet mondial sur l'IA, le défi est de ne pas laisser le Sud global, dont le 1,4 milliard d'Indiens à la traîne d'une révolution technologique. Mais pour Dario Amodei, patron de la start-up américaine Anthropic, ce sommet s'apparente à une opportunité ratée. Il est nécessaire de se concentrer davantage sur les enjeux démocratiques de l'IA, ainsi que les risques liés à la sécurité et à l'emploi que fait peser cette technologie, dit-il. Alors que l'Union européenne tente d'avancer ses pions dans cette course à l'IA, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dévoilé un plan d'investissement de 200 milliards d'euros, dont 150 milliards venant de grands groupes. Le leadership mondial est toujours à saisir, a-t-elle lancé. C'était au sommet sur l'IA à Paris. Les États-Unis se posent en pourfendeur de la régulation, un texte d'Aurélie Mayembo, Mona Guichard, Valérie Leroux de l'agence France-Presse, paru le 11 février 2025 dans Le Devoir.
Le miraculé du métro de New York. Un texte de Catherine Rosman, du New York Times, paru le 17 février 2025 dans la presse. À New York, durant l'après-midi du 31 décembre 2024, Joseph Linsky attendait le métro pour Brooklyn sur le quai de la station de la 18e rue à Manhattan. Il venait de dîner avec des amis et rentrait chez lui se préparer à une fête du Nouvel An. Soudainement, on l'a poussé violemment devant la rame de métro qui arrivait. Durant la fraction de seconde qu'a duré son vol, il a vu les phares de la voiture de tête et a pu distinguer la silhouette du conducteur. Il s'est dit que sa vie s'arrêtait là. « Je n'ai pas vu toute ma vie défiler sous mes yeux, je me suis dit. J'ai été poussé et je vais me faire écraser par le train, » dit-il. Sa tête, puis son corps ont percuté le sol entre les rails. Le sang s'est mis à couler sous son crâne. La douleur atroce lui a fait comprendre qu'il était vivant. Mais lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu qu'il n'était pas hors de danger. J'ai levé les yeux, J'étais sous le train, a-t-il déclaré. Pour bien des New-Yorkais, il n'y a rien de plus terrifiant que l'idée d'être poussé devant un train qui arrive. C'est arrivé à M. Linsky et il a survécu, portant en lui une perspective unique sur une crise qui crée une anxiété intense chez les résidents de la ville et les touristes. Mais avoir survécu à l'impact n'était que le début. M. Linsky devait maintenant trouver comment se sortir de ce qui pouvait être sa tombe. Violence dans le métro. À New York, la crainte de la violence dans le métro ne date pas d'hier. Mais depuis la pandémie, ces craintes ont été amplifiées par une série d'attaques très médiatisées contre des usagers choisis au hasard. En 2024, 26 usagers ont été poussés sur les rails, dont certains projetés du quai lors de bagarres. Chez ceux qui sont happés par un train, les survivants sont rares. M. Linsky est une exception inouïe. Quand on voit la vidéo de l'agression, on ne comprend pas qu'il y ait survécu. Une milliseconde plus tard, et ce train m'aurait tué ou paralysé. J'ai survécu, je ne sais pas comment, dit-il, perplexe. Un suspect, Kamel Hawkins, 23 ans, a été arrêté le même jour. Accusé de tentative de meurtre au second degré et de voie de fait, il a plaidé non coupable. Le 16 janvier 2025, durant une entrevue chez lui, M. Linsky, 45 ans, cherchait une position indolore sur le canapé de son appartement ensoleillé de Brooklyn, grimaçant parfois de douleur en racontant dans les détails l'épreuve qui lui a cassé 4 côtes, fracturé le crâne et crevé la rate. Sans compter une commotion cérébrale et un traumatisme psychologique. Qui lui reprocherait de joindre sa voix à tous ceux qui décrivent le métro comme un labyrinthe sans foi ni loi? Pourtant, loin de dénigrer sa ville, M. Linsky, adepte du métro depuis toujours, a un autre message. Le métro contribue à la grandeur de New York et les New-Yorkais méritent une action urgente de la ville et de l'État de New York qui n'en ont pas fait assez pour contrer la violence. Le métro est le lien vital de cette ville, dit-il. Les New-Yorkais ne devraient pas devoir longer les murs ou agripper un pilier pour se sentir en sécurité à l'approche du train. C'est inacceptable. Faites mieux. Protégez vos citoyens. À l'âge de 20 ans, Joseph Linsky a chargé une remorque U-Haul et quitté son Miami natal pour New York. Il a roulé jusqu'à Brooklyn. Ayant été disque jockey en Floride, il s'est vite intégré dans le milieu des boîtes de nuit et de la production musicale new-yorkaise. Il est aujourd'hui responsable du contenu musical chez Grave V, une société qui crée des musiques d'ambiance pour les hôtels, les restaurants, les gymnases et les magasins. Carnival Cruise Line et la chaîne Equinox Fitness sont parmi ses clients. Et il se produit encore à l'occasion comme DJ sous le nom de scène DJ Joe Usher. Une poussée dans le dos. Le 31 décembre 2024, M. Linsky a commencé sa journée par un entraînement au gym de son immeuble avant de prendre le train pour Manhattan où il a dîné avec des amis. Ensuite, lui et Mark Morishig, l'un de ses meilleurs amis, sont partis vers l'est en direction de la 7e avenue. À l'entrée de la station de la 18e rue, il a salué son ami et dévalé les escaliers. En franchissant les tourniquets, il a entendu le bruit sourd du train qui arrivait au loin. Il était seul sur le quai, aucun autre passager, pas de policier ni d'employé de la Metropolitan Transportation Authority. Il a attendu peut-être 45 secondes au total. Il se souvient d'avoir jeté un coup d'œil à Spotify sur son téléphone, mais ses écouteurs étaient encore dans ses poches. « J'entendais et je voyais le train arriver, dit-il. J'ai probablement regardé mon téléphone pendant, je ne sais pas, 10 ou 15 secondes. Puis j'ai senti la poussée dans mon dos. Je ne m'attendais pas à être attaqué. Je suis un gars solide, mais j'ai été poussé extrêmement fort et par derrière. Et j'ai volé dans les airs. Il a atterri sur le côté gauche dans la tranchée, sa tête et ses côtes cognant durement le sol. En regardant vers le haut, il a vu le train au-dessus de lui, puis a aperçu le troisième rail qui alimente le métro en électricité tout près de lui. Il savait qu'il serait électrocuté si son corps ou même son manteau le touchait. S'efforçant de rester immobile, il s'est mis à appeler à l'aide. « On m'a poussé. Aidez-moi, quelqu'un, s'il vous plaît. » Il a entendu les voix d'un homme et d'une femme. Il ne sait pas s'ils lui parlaient depuis l'espace entre les voitures du train au-dessus de lui ou s'ils étaient sur le quai. Elle m'a demandé comment j'allais. J'ai répondu que ça irait, mais j'ai crié « S'il vous plaît, aidez-moi ». Pour me calmer, elle m'a demandé mon nom. Elle m'a demandé de l'épeler. Elle m'a demandé de remuer les orteils. Elle m'a demandé de remuer les doigts. Monsieur Linsky estime être resté sous le train durant 4 ou 5 minutes avant d'entendre les sirènes, puis le chaos absolu depuis le quai. Vous écoutez « Le miraculé du métro de New York », un texte de Catherine Rossman du New York Times, paru le 17 février 2025 dans la presse. Pompiers sauveurs. Les pompiers, Jonathan Aquilina et John Montalbano, étaient parmi les secouristes dépêchés sur les lieux. Dans un petit espace, entre deux wagons, ils ont pu voir la tête de Linsky, entaillée et ensanglantée, ont-ils expliqué. Il ne semblait pas conscient. La veille au soir, lors d'un exercice à la caserne, les pompiers s'étaient entraînés à secourir des personnes coincées en dessous ou à côté d'un train. Ils connaissaient le risque d'électrocution en raison du troisième rail et son courant de 625 volts ou les patins du métro, des pièces métalliques fixées aux voitures qui glissent sur le troisième rail, acheminant l'électricité au moteur. Ils ont brièvement discuté avec leur chef de la possibilité de demander qu'on coupe le courant. Mais ils ont vu M. Linsky ouvrir les yeux et décider de ne pas attendre. « Il fallait descendre là-dessous », a déclaré M. Montalbano. Les pompiers sont descendus sous le train et ont rampé dans la tranchée qui faisait moins de 25 cm de profondeur. Une fois rendu M. Linsky, ils ont décidé de le déplacer vers l'espace entre deux wagons où on pourrait le tirer vers le haut. Ils l'ont traîné par les bras sur environ 2,5 mètres, puis d'autres secouristes l'ont hissé sur le quai. C'est à ce moment-là que Linsky a senti ses côtes se briser. Les secouristes ont découpé ses vêtements avec des ciseaux, lui ont mis une minerve autour du cou et l'ont allongé sur une planche. M. Linsky dit qu'il s'inquiétait moins pour lui-même que pour Léo, son chien de 16 ans, seul à la maison, à Brooklyn. « Je suis en sous-vêtements sur le quai, suppliant qu'on m'aide. » Mais là, je dis aux pompiers, « Je sais que je suis vraiment blessé, mais est-ce qu'on peut s'assurer que quelqu'un ira s'occuper de mon chien ?» Transporté d'urgence à l'hôpital Bellevue, M. Linsky a été soumis à une batterie de tests, puis interrogé par la police qui l'a informé qu'un suspect avait été arrêté. Son neveu de 37 ans, en visite à New York avec sa femme pour les fêtes, s'est rendu à son chevet en moins d'une heure. Plus tard, son ami, Mark Murashig, s'est assis à son chevet et ils ont accueilli l'année 2025 en regardant les lumières de l'Empire State Building. Des réactions et du soutien. Le 6 janvier 2025, quelques jours après avoir été transféré des soins intensifs à un lit au 5e étage de l'hôpital Bellevue, Joe Linsky a lu l'article de journal qu'un ami lui avait envoyé. On y lisait une citation du président de la Metropolitan Transportation Authority, Jano Lieber, qui se préoccupait des revenus de l'agence et affirmait que les incidents violents très médiatisés avaient marqué les esprits, mais que les statistiques globales étaient positives. J'ai lu ça alors que j'étais sous oxygène, après avoir été poussé devant un métro, raconte-t-il de l'exaspération dans la voix. Depuis l'attaque contre M. Linsky, d'autres responsables se sont exprimés. Le maire Eric Adams a manifesté son soutien à la victime sur X, tout en louant la réaction de la police. La gouverneure de l'État, Kathy Hochul, a appelé à une augmentation de la présence policière dans le métro pendant la nuit. Il a reçu un texto d'un élu de Manhattan à l'Assemblée législative de l'État de New York, mais aucun responsable ne l'a contacté. « Je n'ai pas eu de nouvelles », affirme M. Linsky en haussant les épaules. Depuis sa sortie de l'hôpital Bellevue, une semaine après l'attaque, il récupère chez lui, fait de la physiothérapie et reçoit de nombreux visiteurs qui lui apportent leur soutien et des repas faits maison. Positif et reconnaissant, la douleur fait qu'il dort mal, mais il essaie de rester positif. Il est en vie et il sait plus que jamais qu'on ne doit rien tenir pour acquis, que la vie peut basculer en une fraction de seconde. Il a essayé de ne pas regarder la vidéo de l'événement en vain. Lorsqu'il a ouvert TikTok 2 jours après l'attaque, c'est la première vidéo que l'algorithme lui a proposée. « C'était très troublant », dit-il. De même, il ne veut pas parler de l'homme qui a été accusé de l'avoir poussé. « Je n'ai pas d'énergie en ce moment à mettre dans la colère ou le ressentiment. Il a 23 ans. Et je ne sais pas grand-chose de lui. » Il trouve presque inconcevable que lui, un New-Yorkais ordinaire menant une vie ordinaire, soit victime d'une tentative de meurtre. « Le traumatisme ne m'a pas encore complètement frappé, dit-il. Je suis juste très reconnaissant de pouvoir m'asseoir ici et manger un croissant. » Il exprime toute sa gratitude envers les bons samaritains qui l'ont aidé à rester calme et les secouristes qui l'ont sauvé. Il a pu les remercier en personne à la caserne le 3 février 2025. Joe Linsky pense que sa vie n'a pas été épargnée sans raison. Être utile, aider, c'est ce sur quoi je vais me concentrer durant la prochaine étape de ma vie, promet-il. Il n'a pas encore décidé de quelle manière. Il doit guérir avant de se consacrer à ses 2 objectifs immédiats, retourner jouer au tennis d'ici le printemps, retrouver le plaisir de se promener à New York. Je suis chez moi dans cette ville. Je ne me laisserai pas intimider. Ce qui m'est arrivé a été extrêmement traumatisant. Mais je vais finir par retourner prendre le métro. C'était Le miraculé du métro de New York, un texte de Catherine Rosman du New York Times, paru le 17 février 2025 dans La Presse.